CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec Inextenso Finance.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux et notre compte X CEO Radio tiré du bas. TV à mes côtés pour co-animer cette émission, Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inextenso Finance. Bonjour Marc.
Bonjour mon cher Alain.
Aujourd'hui on a le grand plaisir Marc d'accueillir Sana Ronda qui est fondatrice et présidente de Linguaphone. Bonjour Sana.
Bonjour.
Alors, vous êtes à Rabat, au Maroc, diplômé notamment de l'ESCP et de l'INSEAD, et vous avez commencé votre vie professionnelle chez EY. À me souvenir, ce tout premier job, vous faisiez quoi exactement ?
J'étais auditeur, c'est pas très compliqué. Donc, j'étais dans les chiffres, dans l'analyse.
Oui.
Une expérience formidable et très formatrice.
Et alors ensuite, direction les jouets, Toys R Us ?
Oui, exact. C'était un client. Et donc, souvent, c'était un peu l'étape seconde quand on était auditeur. C'est soit on poursuivait dans la voie de l'audit et des chiffres, ce qui n'est voie pour laquelle je n'étais pas destinée, ou alors on allait chez ses clients pour faire ce qu'on disait de faire.
Ce qui est pas mal quand même, de voir si ça marche. Alors ensuite, Bain, dans le conseil en stratégie. Et là, vous avez quand même trouvé le temps d'avoir quelques enfants. Combien d'enfants d'ailleurs ?
Deux. J'ai tendance à dire que j'ai rencontré mon mari chez EY et j'ai fait mes enfants chez Bain. Ça le fait pas mal.
Bain, c'était une belle aventure ?
Très belle. Donc,
est-ce que leurs honoraires sont justifiés maintenant qu'on est en off et que vous êtes partis depuis longtemps ? Parce qu'ils sont quand même élevés. Hein.
Si on arrive à faire, oui.
Oui.
C'est toujours pareil. Faucon, Yaka.
D'accord.
Donc, il n'y a qu'à Faucon. Mais après, il faut faire. Mais si on arrive à mettre en œuvre et à implémenter, ça vaut le coup.
Il y a un réseau des anciens d'EY, de Bain ?
Absolument.
Ouais, donc, il y a quoi, un côté alumni, fort, on s'entraide aussi ?
Ah, absolument, on s'entraide, on continue de se voir, de s'apprécier. Ce sont des maisons qui créent des promotions.
Très
et bien. En fait, c'est un peu la suite des études, en réalité. Donc, on a notre promotion d'école, la promotion EY, la promotion Bain. Et on continue de se voir au moins une fois par an.
2005, vous allez, Sana, décider de devenir entrepreneur. Mais pourquoi devenir entrepreneur ? Vous allez prendre des risques alors que c'est sympa d'être salarié. Au pire, vous voulez un peu d'argent, vous faites licencier, vous allez au prud'homme, vous êtes riche en 3-4 licenciements. Pourquoi prendre des risques ?
J'ai jamais réussi à me faire licencier, c'est con. Mais bon.
Qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre boîte ? Vous l'avez créée ou vous l'avez
reprise
d'ailleurs ?
Je pense que c'est un peu la quarantaine, le que vais-je, qui suis-je. Et puis, j'ai quand même fait une longue carrière dans le Yaka Faucon. Et c'était assez intéressant pour moi de passer de l'autre côté et de faire. Et de regarder, de faire par moi-même. Et 2005, c'est aussi 5 ans après les années 2000, vous vous souvenez ? Tous ces fabuleux fichiers Excel sur lesquels on faisait des business plans mirobolants, on levait des fonds. Et je pense que les
vous
deux associés...
Vous avez été influencé, quoi.
Un petit peu, et puis une envie peut-être de liberté et d'autonomie.
Donc Linguaphone, vous l'avez créé, hein, vous ne l'avez pas racheté. Hein.
Linguaphone, je l'ai créé sur la base d'une marque internationale qui, elle, existait déjà. Elle existe depuis 1901 et c'est la deuxième marque la plus vieille au monde après une autre qui est malheureusement morte en France, qui est Berlitz.
Berlitz, quoi. Donc vous dispensez des formations quoi, en B2C, B2B, vous travaillez avec qui ?
Alors nous, notre credo, c'est d'accompagner des professionnels pour communiquer dans une langue. Même en français en réalité. Et on accompagne des professionnels, qu'ils soient en poste, en devenir ou en transition. Donc on a tout le spectre, mais plutôt chez les professionnels et c'est très B2B.
Et aujourd'hui, donc, c'est autour d'un 11 millions, un peu plus d'11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quoi.
Faut... Tout à fait.
Donc il y a un marché important. Quoi. C'est... Les Français sont un peu meilleurs en anglais ou alors
le marché,
c'est...
en fait, non, du tout, du tout.
On est très mauvais.
Non, on continue malheureusement. Et nos classements ne cessent, la livraison en tout cas d'éducation nationale ne cesse de s'affaiblir. Et donc, du coup, le marché en théorie ne cesse d'augmenter. Mais enfin, les entreprises ne peuvent pas pallier à l'ensemble des problèmes qui sont laissés, je dirais, par l'éducation nationale. Donc c'est un marché qui est très important et pour lequel on cherche toujours des solutions pour que ce soit le plus efficace et le plus optimisé possible pour les entreprises.
Marc ?
Oui, une question sur ce marché, puisque vous venez de l'évoquer. Le secteur de la formation professionnelle autour des langues, qui est votre secteur, même si je comprends que vous êtes dans les langues et la communication autour des langues, enfin l'usage de la langue comme vecteur de communication, je pense que c'est plutôt effectivement ça votre positionnement. Digitalisation, e-learning, concentration, consolidation du secteur. J'ai pas encore parlé d'intelligence artificielle, mais on va y venir. Comment vous voyez ces enjeux pour votre entreprise aujourd'hui ?
Il y en a qui ne sont plus des enjeux, parce que c'est une réalité. Donc, tout ce qui est digitalisation, e-learning ou même l'IA, on y est déjà depuis un an. Alors, il y a beaucoup de choses, il faut prendre ça, il faut y aller doucement et prendre beaucoup de recul, parce que pour le moment, quand on communique avec des humains, et on a besoin d'un humain pour nous faire communiquer. Alors, c'est une compétence assez complexe, hein, parce que si elle n'était pas complexe, on parlait tous 3 ou 4 langues, avec toutes les heures qu'on passe. Mais dans le vecteur principal reste le formateur et l'humain. Donc, le reste, ce sont des outils qui vont nous permettre d'améliorer l'efficacité du formateur humain qui lui accompagne l'individu. Alors, le secteur a connu énormément de changements. Le changement principal qu'il a eu économique, celui-ci, c'est avec plutôt dans les années 2000 et la libéralisation des télécoms qui a fait que des gens en dehors de France pouvaient former à bas coût, en tout cas, la population française. Mais ce qui est très intéressant pour nous, c'est cette même dérégulation, elle nous permet aujourd'hui d'accéder à des compétences partout dans le monde et qui n'existent pas ici.
Et est-ce qu'aujourd'hui, dans les compétences que vous apportez, comment vous appréhendez les spécificités propres à des secteurs professionnels ? On voit tous dans nos secteurs une espèce de jargon, souvent tailleur technique. Comment on intègre ça dans la formation aux langues lorsqu'on doit traduire ce jargon dans une autre langue, que ce soit en japonais, en anglais ou en langue encore plus exotique ?
Alors moi, j'ai tendance à dire que les formations linguistiques dans notre secteur est souvent en avance de 10 à 15 ans sur les autres secteurs de formation. C'est le seul secteur qui est 100% individualisé. C'est-à-dire, chaque individu, il a un diagnostic de pré-formation individuel avec un parcours qui va correspondre à ses besoins. Et quand je dis besoin, c'est pas seulement à son métier, à son vocabulaire, mais également à ses besoins de flexibilité, de médias. Par exemple, vous allez me dire, je déteste le e-learning ou je n'aime pas être à distance. Ben, on va vous écouter par rapport à ça pour réaliser votre formation. Et l'autre chose qui est très importante dans ce secteur, c'est que c'est l'un des rares qui a toujours respecté le côté cognitif de l'apprentissage. C'est-à-dire, ce sont des petites granules depuis toujours qui sont de façon espacée, étalées dans le temps, qui permet entre deux sessions de la réflexivité. Pour tout ce qui est métier et technique, en général, les gens connaissent leurs mots et leurs techniques. Ce qu'ils n'ont pas, c'est les autres mots pour constituer les phrases et communiquer. Donc souvent, nous, les responsables formation, vont nous demander, apprenez-leur les mots techniques. Mais nous, quand on vit en réalité, on voit qu'ils les connaissent, mais ce qui leur manque, c'est tout le reste.
Alors, Alain l'évoquait, puisque vous avez créé l'entreprise, aujourd'hui, vous faites un peu plus de 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai noté que vous aviez fait l'acquisition de 2 sociétés, alors peut-être d'autres que je n'ai pas notées, Unilang et Langue et Entreprise, c'est il y a quelques années déjà. Quelle était la motivation de cette croissance externe et est-ce que c'est encore aujourd'hui la croissance externe un axe de développement pour votre entreprise ?
C'est l'un des axes, mais quand on a démarré l'entreprise en 2005, on était devant un marché très atomisé, comme vous avez dit tout à l'heure, avec des donneurs d'ordre, eux, qui sont très gros et avec des besoins d'investissement énormes si on voulait faire quelque chose de qualité. Nous, on suit l'individu et les petites granules. Donc, je m'étais dit, consultante que je suis, que c'était magnifique pour créer des business et qu'il fallait y aller. Et donc, je commence. Donc, le plan d'acquisition, dès le départ, on avait cette stratégie d'acquisition. Donc, on n'en a pas fait que 2, on a fait 4 ou 5, souvent à la barre du tribunal. Malheureusement, les procédures, je dirais, de redressement en France fait que quand on arrive à la liquidation, c'est souvent tard. Mais enfin, on a eu quand même quelques belles compétences. Nous avons intégré, nous, linguophones, quasi tous les fleurons de la formation linguistique des années 90 et 2000. Tous ces gens-là qui n'ont pas réussi à faire leur transition, notamment par rapport au distanciel, ce qu'on appelle digital, mais enfin, digital est un mot qui veut tout dire et rien dire, mais bon. Donc, leur transition digitale et qui, finalement, n'ont pas pu faire face aux nouveaux entrants sur le marché et qui ont été liquidés.
Et enfin, entrepreneur, entrepreneuse, j'ai mieux qu'entrepreneur,
mon cher Alain. Au choix, mon cher Marc.
Entrepreneuse, comment on finance, comment on accompagne cette croissance?
On fait des levées de fonds.
Donc vous êtes seul actionnaire aujourd'hui, non? Vous avez de...
Non, je ne suis pas seul actionnaire. On est plusieurs actionnaires. En fait, on a fait une levée de fonds pour accompagner notre progression. Nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, on a énormément investi. Comme je dis, dans l'entrepreneuriat, il faut creuser son sillon et y aller. Il y a des hauts et des bas. On a connu, comme tout le monde, des hauts et des bas. Mais on a persévéré, et c'est, je dirais, le c'est pas le secret, mais en tout cas, c'est le facteur de succès, c'est un petit peu la persévérance. Et on s'est adossé à un groupe, au groupe Xynergie, l'année dernière, qui est maintenant un autre actionnaire auprès de nous pour continuer à investir dans la croissance.
On salue Bernard Canetis, ça, son président, un entrepreneur juste formidable. Quoi. La formation en France, c'est le BINS, hein. Ça part en tous les sens, il y a des gabegies, vous en pensez quoi, Sana?
Est-ce qu'il y a des gabegies dans la formation? Bon, d'abord, c'est suradministré.
Ouais. Bon, ça, c'est français quand même. Hein.
Et comme toute chose suradministrée, elle est incontrôlable. Parce que vous avez 3-4 tiers, la personne ne paye pas en direct. Je paye pour quelqu'un qui consomme et pour qui à qui personne ne demande de relever le compteur. Enfin, c'est tous ces mécanismes de tierces personnes. Avant, c'était très, très largement subventionné. Ça l'est beaucoup, beaucoup moins. En tout cas, le tapis a été retiré au marché de la formation. Pour ceux qui le suivent, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui, malheureusement, ont déposé le bilan, qui ont été liquidées, qui n'ont pas supporté à la fois le Covid et le retrait de tapis, puisqu'on est un peu spécialiste de ça chez nous. Mais enfin, il n'y a pas de gabegie. Il y a beaucoup de gens très sérieux. C'est comme dans tous les secteurs, il peut y avoir des epsilon de personnes qui font un peu n'importe quoi.
Mais c'est marginal,
quoi.
Sana, c'est ça?
Très, très marginal.
Sana dit tout, le plus beau métier du monde, c'est dirigeant d'entreprise, espionne ou parachutiste? Je vois bien en espionne.
Bah, j'ai pas essayé le 1 et le 2, parce que ma mère, quand mon père voulait enfin accéder à mon désir de faire du parachutisme, il lui a dit c'est le parachute ou moi, donc mon père a choisi ma mère. Pour espionne, bah, malheureusement, c'est toujours resté au niveau du rêve, ça n'a jamais été concret.
Vous le diriez pas si c'était le cas. La meilleure cuisine du monde, Sana, elle est française ou elle est marocaine?
Il n'y a pas encore de cuisine fusion maroco-française. Les deux sont excellentes, elles sont très différentes et c'est ça qui est magnifique.
Merci beaucoup, Sana. Il y a une site internet, une adresse, des informations sur votre société?
Il y a un site www.linguaphone.fr, un numéro de téléphone, les 01 47 78 80 00. Et puis, Sana Ronda, vous tapez les coordonnées et vous avez mon téléphone direct.
Merci Sana, merci Marc. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toutes les actualités sur les comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Inextenso Finance.